Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes du Canal M. Nous, c'est en régie Jean-Sébastien Laliberté.
Oui.
Et à ma droite.
Oui, nul autre que Serge Hamelin.
Et celui qui vous parle, Roger Roy. Nous sommes là pour la prochaine heure à vous proposer des textes que nous sommes allés piocher. Si on...
Puiser,
colliger.
Glaner
dans... au rayon culture et société du Kiosque Magazine.
Oui, rien de moins.
Rien de moins. Alors Serge, vous avez des choses à nous proposer.
Ben, moi, je suis allé dans la revue Bel Âge et la revue Protégez-vous et on va parler de tablettes... Okay. Et
oui.
Puis après ça, on va parler d'aliments qui boostent le moral. Et puis après ça, on va parler de quoi donc? On va parler... Ah non!
Quoi?
Des maux de gorge.
M-A-U-X.
Oui, ceux qui font mal.
Bon, c'est ça.
Oui.
Alors pour ma part, je vais vous parler de Émile Néligan. Ce serait un
imposteur. C'est plus chaud pour l'hiver.
Oui, c'est ça. Je vous parle aussi d'une classe créative. Ça, c'est... Néligan, c'est dans l'actualité. Une classe créative dans le Reader's Digest. Et pour tout de suite... Deux chroniques parues dans l'actualité qui traitent de consommation.
Consommation.
Dans l'édition du 15 novembre, Pierre Duhamel nous parle de consommation télévisuelle.
Ah, je pensais que c'est consommation d'alcool.
Non, puis dans l'édition même pas. Dans l'édition du 1er décembre, c'est la consommation du temps des fêtes qui a intéressé Cathy Noël.
Oui.
Donc, je vous parle du texte maintenant. Le Père Noël est une ordure. Non, non. Ça, c'est un film. Le Père Noël est au régime, à la diète. Moins de cadeaux, moins cher, il y a moins de personnes. Voilà qui décrit bien le contenu du sac du Père Noël depuis quelques années. La période des fêtes n'est plus aussi faste qu'avant pour les Québécois. L'an dernier, leur budget pour cette période de réjouissance a été de 2,15 milliards de dollars. Ouh, c'est quand même pas rien. Une baisse de 8 % par rapport à l'année précédente. Si la tendance se maintient, 2014 ne sera pas l'année des grandes folies non plus. Et comme il s'agit du temps où les consommateurs desserrent le plus leur ceinture, on imagine ce qui se passe le reste de l'année. En fait, depuis la crise financière de 2008, les ventes au détail annuelles au Québec croissent tout au plus de 1 ou 2 %, alors qu'elles augmentaient de 4 % par année lors de la décennie précédente, selon le groupe Altus, une société de recherche marketing. Nombre de détaillants, en particulier dans le secteur du vêtement, vivent des jours difficiles. Jacob, Rittmans, Labbé, Sears voient leur chiffre d'affaires baisser et doivent prendre des mesures comme réduire le nombre d'employés ou même fermer boutique. Les plus optimistes sont les détaillants de produits de luxe à une extrémité et Dollarama à l'autre. Il faut dire que la classe moyenne atteint des niveaux d'endettement jamais vus qui la forcent à changer ses habitudes de consommation. Acheter d'occasion ou faire du troc est devenu à la mode. Près des trois quarts des Québécois ont acheté au moins un produit d'occasion en 2013, d'après l'Observatoire de la consommation responsable. Les plus jeunes éprouvent moins de gêne que leurs aînés à magasiner dans les sites de petites annonces en ligne pour se procurer vélos, meubles, livres et articles de sport. La conscience environnementale et sociale grandissante des consommateurs de tous âges les rend par ailleurs de plus en plus critiques à l'égard des entreprises qui vendent des produits polluants ou rapidement obsolètes. La baisse de consommation est aussi tout bêtement mathématique. Les jeunes qui consomment davantage que leurs aînés sont de moins en moins nombreux. Si les personnes âgées consomment moins, c'est qu'en général, elles ont déjà comblé nombre de leurs besoins, mais il y a plus, car même les baby-boomers, qui ont pourtant inventé la société de consommation, ne sont plus les acheteurs enthousiastes qu'ils étaient. Un sondage de Capital One Canada et CRUP, mené auprès de Québécois âgés de 50 à 67 ans, publié en mai dernier, montre que 71 % de ceux-ci déclarent avoir moins envie d'acheter qu'avant. Il y a 10 ans, pour le même groupe d'âge, cette proportion était de 53 %. Pour répondre à ces nouvelles tendances, des entreprises ont commencé à faire des campagnes de publicité anti-consommation. La marque de vêtements californienne Patagonia, reconnue comme très responsable et hyper écolo, a lancé le mouvement en 2011 avec sa publicité « Don't buy this jacket, n'achetez pas ce blouson », parue dans la New York Times le jour du Vendredi fou aux États-Unis. En décourageant l'achat impulsif, Patagonia souhaite bien sûr attirer le nouveau consommateur plus réfléchi en voie d'émerger. Au Canada, le fabricant d'imprimantes Brother promet aux clients que s'il achète un de ses produits, il n'aura plus besoin d'une autre imprimante pour le reste de sa vie. Toyota élabore, quant à elle, ses campagnes publicitaires en se targuant de construire des voitures qui durent plus de 10 ans. Après des décennies de surconsommation, serait-on entré dans l'ère de la déconsommation? Si c'est le cas, la cure minceur du Père Noël n'est pas l'effet de la conjoncture économique, mais une véritable tendance. Il faudra lui dénicher un nouveau sac sur Kijiji. Alors, c'est Cathy Noël qui signe cette chronique dans l'actualité du 1er décembre. Le Père Noël est au régime, pour sa part. Monsieur Pierre Duhamel, dans une chronique qui est publiée, qui paraît dans l'actualité du 15 novembre, à un texte auquel il donne le titre « La télé déchaînée ». Le président du CRTC était furieux le 19 septembre dernier aux audiences sur l'avenir de la télévision au Canada. La représentante de Netflix, service de télévision sur demande offert sur le web, refusait de divulguer à l'organisme combien l'entreprise compte d'abonnés au pays et les sommes qu'elle y a dépensées en programmation. Jean-Pierre Blais a dû l'assommer de lui transmettre ces données, qui reste confidentielle, sinon l'ordonnance d'exemption qui permet aux géants américains d'exercer ses activités au Canada sera menacée. Netflix. Ce mot résume à lui seul la métamorphose de la télévision. Nous avons aujourd'hui accès à des centaines de chaînes que nous pouvons voir sur de multiples écrans. En plus de cette offre amplifiée, nous pouvons, grâce à des services de télévision sur demande, regarder des films et de grandes séries payables à l'unité, comme sur iTunes ou par abonnement comme sur Netflix. Les consommateurs sont ravis et Media Technology Monitor, un cabinet de consultants, estime que 5,8 millions de Canadiens anglais sont branchés sur Netflix et regardent leurs émissions en continu sur le web, ce qu'on appelle diffusion en flux ou streaming. Le temps passé à regarder la télé en ligne a augmenté de 43% de 2013 à 2014. Au lieu de suivre chaque semaine une émission entrecoupée de pauses publicitaires, de plus en plus de gens visionnent en rafale et sans pub la saison complète d'une série populaire. Les grands diffuseurs, eux, sont furieux et inquiets. Une partie de leur audience leur échappe à cause de concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes règles qu'eux, notamment ce qui concerne le pourcentage de contenu canadien obligatoire et son financement. Ils n'ont pas besoin de vendre de la publicité pour être très rentables. Ils s'en plaignent au CRTC, gendarmes, et gardien du paysage audiovisuel canadien. Alors, cette lutte entre les diffuseurs traditionnels et les services de télé à la carte ou sur demande et les chaînes payantes se joue d'abord sur le terrain du contenu, finit le temps où des réseaux comme CTV, TVA ou Radio-Canada mettaient invariablement la main sur les émissions les plus recherchées et les plus primées. Et ces chaînes généralistes se rabattent sur des, qu'on appelle, des émissions scénarios qui n'est pas dont le scénario n'est pas programmé à l'avance, comme le sport, par exemple.
Ah.
Oh, la télé déchaînée, c'est par Pierre Duhamel dans l'actualité du 15 novembre.
Alors, vous pensez vous acheter une tablette?
Oui.
Oui, mais pas pour la laisser sur la tablette, j'espère. Bon, alors, il y a un guide d'achat ici. Martin Dia nous en fait part dans la revue Protégez-vous, le match parfait. On parle de tablette. Une foule de caractéristiques distinctes, nos modèles recommandés. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Ah, la taille. Les tablettes de 8 pouces ou moins conviennent bien à la lecture. Grâce à leur format compact et leur poids raisonnable, vous pouvez les transporter un peu partout. En revanche, à cause de leur petite taille, elles sont moins agréables à utiliser pour la navigation web et pour travailler avec des logiciels de bureautique. Et sachez que l'ajout d'un clavier peut doubler le poids de votre appareil. Par exemple, l'Iconia W3-810 d'Acer, qui vient d'office avec un clavier, pèse 899 grammes. C'est tout près d'un kilo. En comparaison, le poids moyen des autres appareils de 8 pouces ou moins se situe autour de 350 grammes.
Ben oui.
C'est moins d'une livre,
mais
ça.
Oui.
Hein? Moins d'une livre de steak haché. Les tablettes de plus de 8 pouces, quant à elles, conviennent autant à la lecture qu'à la navigation web. Samsung propose désormais deux modèles de 12 pouces, le Galaxy Tab Pro 12.2 et le Galaxy Note Pro 12.2. Leur grand écran favorise le travail avec des logiciels de traitement de texte, des tableurs, etc. Mais il les alourdit aussi. Ces tablettes figurent d'ailleurs parmi les plus pesantes. Le Vaio Tab 11 de Sony, notamment, et la Transformer Book T100T d'Asus atteignent plus d'un kilo. Difficile de tenir ces appareils d'une seule main. Si vous achetez votre tablette en magasin, prenez donc le temps de le sous-peser.
Est-ce que le prix est en fonction du poids?
Ah, on verra. Le système d'exploitation, c'est l'élément qui aura le plus d'influence sur votre expérience avec une tablette, car chaque système d'exploitation possède ses particularités. Pour accéder au web, toutes les tablettes peuvent se connecter à Internet à partir du Wi-Fi ou du Wi-Fi et possèdent la connectivité Bluetooth, une fonction qui permet d'y raccorder des périphériques sans fil comme un clavier, un casque d'écoute ou des haut-parleurs. Si vous souhaitez accéder à Internet en tout temps et en tout lieu, optez pour une tablette d'Apple, que j'ai d'ailleurs, de Samsung ou de Google, qui peut se connecter par réseau cellulaire 3G, HSPA ou HSDPA, LTE.
Oh.
Vous devrez cependant payer un abonnement à un fournisseur de services mobiles. Vous possédez un téléphone intelligent? Vous pouvez l'utiliser comme borne d'accès sans fil pour votre tablette. Bon. Android de Google. Polyvalente, simple et performante, l'interface Android équipe la grande majorité des tablettes que nous avons testées et le système d'exploitation intègre parfaitement les différents services de Google comme Gmail, Chrome, Drive, Maps et YouTube. Les fabricants personnalisent souvent et parfois fortement cette interface pour leurs tablettes, mais le cœur des fonctionnalités demeure le même. Si vous possédez déjà un téléphone doté d'Android, vous serez peut-être plus à l'aise avec une tablette qui fonctionne avec la même interface. iOS d'Apple, reconnu pour sa convivialité et sa simplicité. La dernière version d'iOS uniformise l'expérience entre les produits Apple. Elle offre une cohérence visuelle entre les différentes interfaces OS X et iOS. Windows RT et Windows 8 de Microsoft. Les systèmes Windows sont conçus pour être utilisés avec l'affichage par tuiles, mieux adapté pour la navigation tactile que l'interface de type bureau, qui est également possible. Et Fire OS d'Amazon, bâti à partir d'Android, Fire OS a été développé principalement pour promouvoir le contenu proposé sur Amazon, livres, vidéos, applications, etc., etc. Et le fabricant imposant son propre marché d'applications, empêchant les utilisateurs de ses tablettes d'accéder à Google Play et d'installer des applications pratiques et populaires comme Gmail et Google Maps. L'écran, la capacité de mémoire, les entrées et les sorties, les caméras photo et vidéo. Intéressant. L'écran. Un bon indicateur de la qualité d'affichage est la densité de l'écran en pixels par pouce. Ça s'appelle PPP. Les modèles offrant une résolution élevée, comme l'iPad Air d'Apple, l'iPad Air d'Apple, 264 ppp, ou la Nexus 7 de Google, 363 ppp, propose généralement de meilleure qualité d'affichage.
Ah.
Ouais. La capacité de mémoire. Bon. De combien de Go avez-vous besoin, Roger? Alors, demandez-vous d'abord quelle quantité de musique, de photos ou de films vous souhaitez conserver sur votre tablette. Par exemple, une mémoire de 16 Go permet d'emmagasiner environ 4000 chansons,
oh, mon Dieu.
20 heures de vidéos ou encore 2500 photos.
Combien de Go?
16 Go.
Oh.
Les entrées et les sorties. Les tablettes sont plus limitées que les ordinateurs en matière d'entrée et de sortie. Les plus polyvalentes, possèdent un port HDMI grâce auquel vous pouvez les relier à un téléviseur ou encore un port USB plein format qui vous permet d'y brancher une clé USB ou une souris, par exemple. Plusieurs tablettes récentes, notamment de Google, Apple et Samsung, ne comportent pas de sortie HDMI. Une façon pour les fabricants de promouvoir leurs solutions sans fil pour le partage de vidéos Chromecast, AirPlay et AllShare. Et ensuite, on termine avec les caméras photo et vidéo. La plupart des tablettes testées sont dotées d'une caméra à l'avant. Mmh. Et cette dernière est utile pour les conversations vidéo sur des services comme FaceTime, Hangout ou Skype. C'est fin, ça.
Ah oui.
Par contre, la résolution est souvent insuffisante pour la prise de photos. C'est pourquoi certains appareils sont aussi équipés d'une caméra à l'arrière. C'est bon?
C'est bon.
Voilà.
Dans le Protégez-vous.
Oui.
Oliver Jones, Place Saint-Henri, c'est une composition de M. Oscar Peterson. Dans le Reader's Digest du mois de décembre, Innovation, créativité, un texte de Simon Lewsen, L-E-W-S-E-N. Qu'est-ce que la créativité? Plusieurs choses en même temps,
un trait de caractère, un mode d'intégration au monde, une industrie de plusieurs millions de dollars. On l'encense sans vraiment comprendre ce qui est en jeu. On la discerne aussi bien dans les toiles chaotiques de Jackson Pollock que dans les algorithmes complexes de Google, entre lesquels il n'y a évidemment rien de commun. Les neuroscientifiques ignorent où dans le cerveau la créativité a son origine. Selon Alice Flaherty, neurologue à la faculté de médecine de l'Université Harvard, elle résulterait d'interactions entre le lobe frontal, là où naissent les idées, le lobe temporal, qui étudie et révise les idées, et le système limbique, qui permettent la motivation. Mais d'autres facteurs interviennent probablement. En 2010, au Japon, on a montré que la qualité des résultats obtenus à un test de créativité dépend de l'étendue de la matière blanche, ce réseau de fibres permettant la communication entre différentes aires cérébrales, R-A-I-R-E-S. La créativité ne se trouverait donc pas dans un centre cérébral spécifique, mais un peu partout. Bien qu'intangible, la créativité a aujourd'hui une valeur sociale élevée. L'urbaniste torontois Richard Florida croit assister à l'émergence d'une classe créative urbaine dans des quartiers florissants où les esprits novateurs, spécialistes du marketing, concepteurs, ingénieurs et artistes, sont les piliers de l'économie. L'an passé, il estimait que 4,3 millions de Canadiens, un tiers de la population active, œuvraient dans un domaine créatif. Il peut donc paraître surprenant que les hommes aient autrefois été considérés comme presque incapables de créativité. Dans la Grèce ancienne, on pensait que l'innovation était inspirée par les dieux, ou les médiums, on dirait aujourd'hui peut-être. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'on a admis que les hommes, fussent-ils une simple minorité d'artistes, de poètes et de musiciens, pouvaient être créatifs. On sait aujourd'hui que cette disposition n'est pas l'exclusivité de rares élus. On croit à tort qu'on est ou non créatif, dit le psychologue albertain Jim Henry, mais c'est une aptitude naturelle que tout le monde peut développer. Si les conditions sont bonnes, la créativité peut naître, et en terrain favorable, elle peut s'épanouir. Les chercheurs du monde entier tentent d'identifier ces conditions. Certains croient que le cerveau, comme tout muscle, fonctionne mieux s'il est sollicité régulièrement. D'autres croient que l'innovation vient de la détente et non de l'exercice. En 2005, dans un article du magazine Harvard Business Review, le psychiatre américain Edward Hallowell notait qu'en cas de stress intense, la partie basse du cerveau, l'aire primitive de l'instinct, de la peur et de la panique, entravait la résolution de problèmes avec souplesse et créativité. Selon lui, l'efficacité des créateurs est meilleure en l'absence d'un horaire trop chargé, d'attentes déraisonnables et de superviseurs trop directifs. Ben. Les patrons pourraient même songer à laisser parfois leurs employés somnoler. De plus en plus d'études montrent que la fatigue début de matinée ou de fin de soirée peut assouplir l'esprit et nous amener à aborder les problèmes de façon novatrice. Nombre d'écrivains célèbres, dont Marcel Proust et Vladimir Nabokov, étaient des noctambules notoires. D'autres affirment que le sommeil lui-même est constitutif de la pensée novatrice. En 2013, des chercheurs de l'Université fédérale de Paraná, au Brésil, ont proposé à 29 sujets adultes un casse-tête sur ordinateur faisant appel à la logique et à un raisonnement créatif. Ceux qui avaient pu alterner sieste et réflexion doublaient leurs chances de résoudre le problème. Alors que les chercheurs étudient les multiples façons de stimuler la créativité, Jim Henry, c'est lui, psychologue albertain, Jim Henry soutient que deux des plus cruciales sont aussi les plus évidentes, la passion et le travail acharné. Vous rêvez de concevoir des logiciels hyper créatifs? Commencez par apprendre les ficelles du codage informatique, mais n'espérez pas devenir en prime un meilleur peintre. Il dit ceci, Einstein était un physicien très créatif, mais un violoniste peu inspiré. Il était passionné et doué pour la physique, beaucoup moins pour le violon. Et comme toujours, dans le Reader's Digest, quelques conseils. Dans d'autres magazines aussi, on le fait.
Exploitez votre créativité, maîtrisez votre sujet. Un esprit créatif est un esprit instruit. Plus vous maîtrisez votre sujet, plus vos chances d'innover augmentent. Cultivez votre bulle, bulle entre guillemets. Des études montrent qu'on travaille moins bien quand on s'inquiète d'une échéance imminente ou des frustrations de son patron. Commencez de bonne heure, permettez à votre esprit de vagabonder et autorisez-vous des erreurs. Ensuite, faites des pauses. Hein? La créativité vient par à-coups et certaines des meilleures idées surgissent quand on a l'esprit ailleurs. Il est bien connu que les employés de Google jouent au ping-pong et au baby-foot au bureau. Saviez-vous ça, Serge? Même la tâche ingrate de ranger votre bureau ou vos dossiers peut offrir à votre esprit le répit nécessaire à un fonctionnement optimal. Prenez le temps de faire des siestes. Alors, il insiste évidemment là-dessus. Même, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça semble être assez productif. Le sommeil paradoxal aide le cerveau à surmonter les difficultés créatrices. Même un repos de 20 minutes peut augmenter votre productivité et changer vos horaires. Selon certaines études, on est souvent plus créatif à des moments soi-disant peu optimaux. Si vous ne pouvez lever le pied au bureau, songez à travailler tard, ou mieux encore, à vous lever avant l'aube. Cela a marché pour Hemingway et Mozart. Hein? On ne le savait pas. Alors, c'est instructif, c'est dans la Reader's Digest du mois de décembre, une classe créative.
Bon, alors, saviez-vous ça qu'il y avait des capteurs d'inactivité, vous?
Ah, tiens.
Ben oui. Votre capteur d'activité dort au fond d'un tiroir. C'est un genre bracelet. Vous n'êtes pas seul. Les Fitbit Flex Up et d'autres Fuel Band ont beau susciter beaucoup d'engouement. Certains estiment que leur marché atteindra 50 milliards de dollars d'ici 2018 et 80 % des gens cessent de les utiliser au bout de 6 mois, selon une étude de Rock Health, un fonds d'investissement américain spécialisé en technologie de la santé. À au moins 100 $ le biduse, c'est beaucoup d'argent gaspillé. Bon, c'est tout.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Je plonge dans le bel âge et je parle des aliments qui boostent le moral,
tiens.
Du rôti de porc à l'ail avec des patates brunes. Ah, que c'est bon. Mais allez pas vous coucher après pour faire votre sieste.
Non, allez
plutôt. Ça risque de durer plus longtemps et puis vous allez faire des cauchemars.
Allez vous promener dans le parc.
Oui, allez marcher un petit peu. OK, c'est beau. Alors, Isabelle Huot, docteur en nutrition, page 24 du bel âge mois de novembre 2014, elle parle des aliments qui boostent le moral. Ah, la déprime guette chacun de nous à certains moments de notre vie, surtout dans le temps des fêtes, des fois, quand on est tout seul. C'est pas drôle. On estime même qu'en 2020, la dépression sera la deuxième maladie la plus importante dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Ça va pas bien. Certes, on ne guérit pas la dépression avec des aliments miracles. Toutefois, plusieurs études confirment les effets de certains aliments sur la chimie de notre cerveau et par conséquent sur notre état d'esprit. Tour d'horizon des aliments bons pour le moral.
Ah, tiens.
Le cerveau, un grand chef d'orchestre. Le cerveau est un organe très complexe. On en avait parlé tôt, avec Einstein, là, et puis bon. Est un organe très complexe constitué de milliards de cellules nerveuses que l'on appelle neurones. Siège de la pensée et des réflexions, le cerveau contrôle aussi tous les systèmes du corps et à l'aide de neurotransmetteurs, il peut agir sur les muscles, sur les glandes et peut communiquer avec tout le reste de notre organisme. Et ces neurotransmetteurs sont indispensables à notre bien-être et influencent considérablement notre humeur. Et parmi les neurotransmetteurs qui jouent sur notre humeur et notre bien-être se trouvent la sérotonine et la dopamine.
Ah oui, ils sont bien connus, celles-là.
Ça, oui. Une semaine à Cayo Coco, ça vous remonte la sérotonine, madame.
Ah, oui,
c'est extraordinaire.
On parle de nourriture.
Ah oui, c'est vrai. Mais on mange aussi là-bas, mais le soleil. En consommant certains nutriments ou certains aliments, on stimule la sécrétion de ces deux précieuses composantes. Les glucides, d'abord. On trouve principalement les glucides dans les produits céréaliers, mais aussi dans certains aliments comme les pommes de terre. Leur consommation permet d'augmenter les niveaux de sérotonine en circulation, rehaussant ainsi le moral. La bonne vieille patate.
Oui, oui, ouais. Les patates brunes dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, puis la patate pilée aussi. Tu sais. Les régimes faibles en glucides, bien que populaires, affectent le moral. On doit donc s'assurer de consommer des aliments riches en glucides à chacun des repas de la journée, en plus d'influencer notre état émotionnel. Ils assureront une énergie constante pour la réussite des activités quotidiennes, avec bien sûr, comme vous disiez tantôt, des petites siestes.
Oui.
Selon le Guide alimentaire canadien, les femmes de 51 ans et plus, c'est pas pour vous ça, Roger, devraient consommer 6 portions de produits céréaliers par jour, alors qu'il est recommandé aux hommes, avez-vous 51 ans, aux hommes de 51 ans et plus d'en consommer 7.
Pourquoi 51 et non pas 50?
Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article. Le magnésium, un minéral important. Le magnésium, ça, c'est vrai, est un minéral particulièrement sollicité en période de stress. Ça vous gruge du magnésium, le stress, comme peut pas. En plus de contribuer à la relaxation musculaire, il permet le maintien d'un rythme cardiaque régulier et la régulation du taux de sucre sanguin. En période de stress, il se produit des pertes de magnésium par l'urine qui peuvent induire une carence, l'hyperémotivité et une fatigue matinale sont deux symptômes de cette carence. Le bon goût du chocolat suffit pour nous convaincre d'y succomber. Il semble par ailleurs qu'en plus de sa divine saveur, le chocolat renferme plusieurs substances qui associeraient sa consommation au sentiment de bien-être. Riche en magnésium, il contient également certaines composantes, notamment, écoutez bien ça, prenez ça en note, phényléthylamine et l'anandamine, qui auraient des propriétés euphorisantes.
Alors?
Des études préliminaires suggèrent également que les aliments riches en flavonoïdes, des antioxydants, comme le chocolat, pourrait avoir un impact positif sur les facultés intellectuelles des personnes âgées. 2 carrés de chocolat noir, riche en cacao, 70 % et plus, offre un parfait mariage de saveur et de santé. Ensuite, des gras salutaires, les oméga 3. Je viens de m'en acheter.
Oui,
en gélule. Oui, c'est bon pour le cœur et le cerveau.
C'est mieux dans le saumon.
Ah, j'ai commencé ça la semaine dernière. J'ai le cerveau. C'est merveilleux. Alors, contrairement aux gras saturés et trans, qui sont de mauvais gras pour la santé cardiovasculaire, les gras oméga-3 d'origine marine seraient efficaces pour contrer la dépression sans symptômes d'anxiété.
C'est ça. Pas dans les gélules.
Ces gras sont particulièrement consommés par les populations qui souffrent peu de dépression, comme les Japonais. Ils mangent du poisson, pas de dépression. Alors, voilà. Ensuite de ça, est-ce que j'ai le temps pour continuer un petit peu? Pas tellement. Bien, écoutez, des nutriments bien choisis pour de petits appétits. Il y a l'article dans le Bel Âge de novembre, page 24, c'est merveilleux. Ces aliments qui boostent le moral, ça vaut la peine parce que là, on est dans une période où ça peut être terrible.
Alors, moi, je vais être un empêcheur de tourner en rond un peu. C'est à l'article de Serge, parce que je vais vous parler d'Émile Nelligan. C'est pas vraiment ce qui pourrait... Sa poésie nous booste pas nécessairement le moral. Dans l'actualité du mois du 1er décembre,
l'imposture... Il était dépressif, lui. Il souffrait de bipolarité, je pense.
Je sais pas de quoi,
mais... maniaco-dépression.
Il est mort dans une institution.
Oui, mais à l'époque, on savait pas.
Oui, c'est ça. Un des monuments de la littérature québécoise est aujourd'hui ébranlé. Savez-vous ça, Serge?
Non.
Émile Nelligan n'aurait pas lui-même écrit tous les poèmes qu'on lui connaît.
Ah non?
Non. C'est la conclusion à laquelle parvient Yvette Francoli au terme de 15 années de recherche. Selon cette spécialiste de la littérature, Eugène Sears, S-E-E-R-S, alias Louis Dantin, un de ses 18... C'est pas ses 18. Sears avait des pseudonymes, il y en avait 12, dont Louis Dantin, a profité de l'internement du poète pour débroussailler, classer, corriger, compléter et réécrire l'œuvre du jeune homme en y glissant des pièces de son cru.
Ah bon?
Dans son livre « Le naufragé du vaisseau d'or, les vies secrètes de Louis Dantin », cette Yvette Francoli lève le voile sur le rôle du maître qui s'est approprié l'élève. Né en 1865, enfant brillant, Sears rafle tous les prix à l'école jusqu'à l'Université grégorienne de Rome, où il obtient un doctorat à 23 ans. Mais sa vraie passion est la poésie, à laquelle il se livre en secret. Sa soutane ne l'empêche pas de séduire hommes et femmes, ce qui lui vaut d'être rejeté par son ordre religieux quand le scandale éclate. En 1903, Sears quitte le Québec pour s'installer au Massachusetts, où il aura deux enfants avec une Américaine. Il gagne son pain comme typographe à l'Université Harvard. Il meurt en exil en 1945. Retraité de l'enseignement, docteur en littérature de l'Université de Sherbrooke, Yvette Francoli n'est pas la première à remettre en question le génie de Nelligan, mais sa démonstration méthodique porte plus que jamais. Son livre a été couronné par les prix Victor Barbeau et Alphonse Desjardins 2014. Alors, c'est Mathieu Robert Sauvé qui l'a interviewé. Il lui a posé, entre autres, la question suivante. Comment Nelligan peut-il ne pas être l'auteur de son œuvre? Réponse. Il n'en avait pas l'étoffe. Le jeune homme n'avait aucune culture littéraire. Les rares lettres de sa main parvenues jusqu'à nous sont truffées de fautes. Ses bulletins aussi en témoignent. Il était dernier de classe en français. De plus, il était très malade. Il y a des limites à ce qu'un adolescent réussisse une œuvre aussi considérable que la sienne en 2 ans. On l'a comparé à Arthur Rimbaud. Or, Rimbaud remportait des concours de composition latine à l'âge de 15 ans. Question. Yvette poursuit. Yvette, comment s'appelle-t-elle? Yvette Francoli. Poursuit. Je ne dis pas que Nelligan n'a rien écrit, mais qu'il n'a laissé que des ébauches. Quelqu'un est passé derrière lui et a tout réécrit, Eugène Sears. Ce n'était un secret pour personne. Nelligan et Sears se voyaient souvent et travaillaient ensemble. En 1904, quand Sears fait publier l'œuvre de Nelligan, dont il signe la première, la préface dithyrambique, il sait que le jeune homme ne sortira jamais de l'asile. Cette édition lancera la carrière du poète, même s'il est interné depuis 5 ans, et qu'il n'écrira plus une seule ligne de sa vie. Question. Quelle a été la part du mentor dans les poèmes d'Émile Nelligan? Impossible de le dire avec précision, car les archives manuscrites de Nelligan sont disparues. Sa mère ne les a pas conservées. Cette lacune elle-même est suspecte. Quand on a un génie dans la famille, on fait attention à ses textes. Autre embûche, Eugène Sears tenait lui-même à occulter son influence. Il a sans cesse brouillé les pistes. C'était la seule façon pour lui de faire de la poésie. Tout ce que l'Église lui permettait de publier, c'était des essais sur des thèmes mystiques. Il en a d'ailleurs écrit quelques-uns regroupés dans le recueil « Franges d'Autel » à UTEL. Défroqué, il s'est surtout fait connaître comme critique littéraire, le plus souvent sous le pseudonyme de Louis Dantin. Sears et Nelligan ont-ils été amants? On n'en sait rien. Je pense qu'on peut parler d'une amitié particulière, mais ce n'est pas très important. Ils ont surtout partagé une œuvre. À mon avis, Sears s'est fait prendre au jeu. Il a d'abord changé un mot ici et là, puis il en est venu à écrire un poème entier, puis un autre. il a finalement occulté Nelly Gant. Un peu comme Cyrano de Bergerac qui fait un pacte avec Christian de Neuvillette, Eugène aurait pu dire à Émile « J'irai dans l'ombre à ton côté, je serai ton esprit, tu seras ma beauté. » Dernière question, une autre question. Quand vous est-il apparu évident que Sears était derrière Nelly Gant? Lorsque je travaillais à l'édition critique de l'œuvre de Sears, quand on lit Dantin et Nelly Gant, la similitude des poèmes saute aux yeux. Sears avait lu la multitude des ouvrages qui sont censés avoir inspiré Nelly Gant. Il possédait une immense culture livresque, de Confucius à George Bernard Shaw. Les thèmes chers à Nelly Gant sont empruntés à son imaginaire. La mort, les cimetières, l'errance, les mazurkas de Chopin. Un exemple, le cœur du vaisseau d'or de Nelly Gant et celui de la complainte du cœur noyé de Dantin sont tous deux désertés et déchirés entre l'aspiration à s'élever, à toucher l'azur et à se perdre dans la mer. Le thème du naufrage est d'ailleurs omniprésent chez Sears, le thème Sears qui a dû subir l'opprobre de la famille en quittant les ordres et en menant une vie, disons, moralement discutable. Il sera un naufragé toute sa vie. C'est lui qui a sombré dans l'abîme du rêve. Ça, c'est le poème du vaisseau d'or. L'imposture Nelly Gant, c'est dans l'actualité du 1er décembre, un texte écrit par Mathieu Robert Sauvé. C'était Annie Blanchard,
oui.
Une chanson de Pascal Lejeune.
Oh, vous savez que je pense encore à Nelly Gant, lui-là.
Ah oui,
oh,
oui.
Là, 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 là. Ça me donne mal à la gorge. Prenez les maux de gorge en grippe. C'est dans le Bel Âge de novembre 14, et c'est Jacqueline Simoneau qui nous parle de ça. Hein. Votre gorge picote, brûle, vous avez du mal à avaler et peut-être même à parler. Pas de doute, vous souffrez d'un affreux mal de gorge. C'est assez évident, je pense. Mais savez-vous ce que cache ce symptôme? Vite, un coup d'œil sur les principaux mots associés au mal de gorge. La laryngite. Il s'agit non pas d'un iPad, là, que je parle. Non, je parle de la laryngite.
ORL.
Il s'agit d'une inflammation du larynx, organe situé entre le pharynx et la trachée, qui renferme les cordes vocales, d'où son appellation fréquente de boîte vocale. Hein? Cette infection est généralement d'origine virale et plus rarement bactérienne, mais elle peut également survenir sans la présence d'un virus ou d'une bactérie, par exemple quand on a trop chanté ou crié à tue-tête. Les cordes vocales s'irritent et enflent. Et comme la plupart des maux de gorge, la laryngite peut être aiguë ou chronique. Le mal de gorge aigu apparaît soudainement à la suite d'une infection et ne dure que quelques jours. Le mal de gorge chronique, lui, n'est pas associé à une infection, mais plutôt à un irritant tabac, reflux œsophagien, allergie chronique ou saisonnière, etc., etc., qui agresse régulièrement le larynx. Les symptômes, la laryngite se manifeste par une sensation de brûlure dans la gorge, un enrouement pouvant aller jusqu'à l'extinction de voix, accompagné parfois de fièvre. Les traitements. Les virus ne se soignent pas par antibiotiques. Le traitement d'une infection virale passe uniquement par le soulagement des symptômes. Alors, des trucs pour soulager le mal de gorge, en voulez-vous?
Mm-hmm.
Prendre un analgésique comme le Tylenol ou l'ibuprofène permet de réduire la douleur et la fièvre. Se gargariser avec de l'eau tiède, une cuillerée à soupe de sel, dans une tasse d'eau plusieurs fois par jour, humidifie le fond de la gorge, réduit le mucus et atténue l'irritation. Sucer des bonbons ou des pastilles augmente la production de salive, force à déglutir et par ricochet hydrate la gorge sèche et enflammée. Certaines pastilles contiennent un anesthésique local qui apaise temporairement la douleur. Un atout à condition de respecter la posologie du fabricant. Prendre beaucoup de liquide aide à soulager l'irritation de la gorge par une toux tenace, humidifie la bouche et la gorge desséchées, éclaircit les sécrétions et facilite leur évacuation. À privilégier l'eau, les boissons chaudes, l'eau chaude sucrée avec du miel, par exemple. Les soupes et les bouillons. Les boissons et les aliments glacés, comme les popsicles et la crème glacée, permettent également de soulager temporairement une gorge irritée. Humidifier l'air ambiant afin de réduire l'assèchement de la gorge. Le taux d'humidité idéal se situe entre 40 et 50. S'abstenir de fumer, si vous fumez. Non seulement le tabac irrite-t-il les voies respiratoires, mais il empêche une bonne oxygénation du sang. Il est aussi prouvé que comparativement aux non-fumeurs, les fumeurs se détendent moins bien contre l'infection et par conséquent mettent plus de temps à guérir. Et Jacqueline Simoneau ne parle pas de ça, mais Serge Hamelin lui va rajouter un autre truc.
Mm-hmm.
Oui. C'est se gargariser avec du citron que vous venez de presser.
Mm-hmm.
Et rajoutez une ou deux gouttes d'eau à votre citron et vous pouvez rajouter un petit peu de sel. Là, ça va tuer tous les microbes qu'il y a dans le fond de la gorge. C'est génial. Et si vous avez un petit bouton sur le bout de la langue, vous faites la même chose. Vous le frottez le soir et le lendemain matin, disparu le petit bouton. Oui, je vous le dis. La pharyngite, c'est une inflammation du pharynx, un organe situé au-dessus du larynx. Dans 85 à 90 % des cas, la pharyngite est causée par un virus. Les autres cas résultent d'une bactérie généralement de type streptocoque ou d'un irritant. La pharyngite est souvent combinée à un rhume ou à une grippe. Et les symptômes? La gorge est sèche, irritée et enflée, résultant une déglutition difficile et douloureuse, aux sensations de brûlure, au picotement au fond de la gorge, parfois accompagnée de fièvre. Ça, c'est pas drôle. Avaler, parler ou même respirer peuvent devenir douloureux. En réaction à l'infection, les ganglions du cou, qui font partie du système de défense immunitaire, peuvent enfler. Toutefois, la voix n'est pas modifiée. Les traitements. Contrairement à ce qui se passe, lorsqu'il y a laryngite, il est possible de confirmer rapidement un diagnostic de pharyngite streptocoque. caustique à l'aide d'une culture de gorge. Si c'est le cas, le médecin vous prescrira probablement un antibiotique. Et même si les infections bactériennes peuvent disparaître d'elles-mêmes, la prise antibiotique permet de réduire la durée des symptômes et surtout de prévenir les complications graves. Voilà.
Dans l'actualité du 15 novembre, anesthésiste à risque. À l'école de médecine ICANN de l'hôpital Mount Sinai à New York, les résidents en anesthésie apprennent à détecter les symptômes de toxicomanie chez leurs collègues. Le problème de dépendance est connu au sein de la profession et on l'aborde ouvertement, dit le docteur Ethan Bryson, professeur d'anesthésie. Bien qu'il ne soit pas plus vulnérable à la toxicomanie que le reste de la population, précise-t-il, les anesthésistes ont accès à des drogues plus dures. Le fentanyl, par exemple, un antidouleur 100 fois plus puissant que la morphine et qui peut tuer les personnes dépendantes après quelques mois d'utilisation. Et contrairement aux autres médecins qui exercent en milieu hospitalier, les anesthésistes ont un accès direct aux médicaments. Au Québec, les médecins qui souffrent d'une dépendance peuvent avoir recours au programme d'aide aux médecins du Québec. Le Collège des médecins peut aussi imposer à ses membres toxicomanes de s'inscrire au programme de suivi administratif. Fin septembre, 65 médecins y étaient inscrits. Il était impossible de savoir quelle spécialité ils exerçaient.
À vue de nez, les voitures de Google Street View photographient les rues de la planète depuis combien d'années?
Sept ans seulement, oui.
Ben oui, je pensais que c'était faisait plus longtemps. Alors, voilà qu'elle joue maintenant un nouveau rôle. Détecter les fuites de gaz naturels, particulièrement dangereuses pour l'homme et pour l'environnement. Depuis la création du projet pilote il y a 2 ans, des véhicules munis de capteurs de méthane ont circulé à New York, Boston et Indianapolis. Dans le seul arrondissement new-yorkais de Staten Island, où vivent environ 500 000 personnes, ce qui est comparable à la population de la ville de Québec, les voitures ont décelé environ 1 000 fuites attribuées à la vétusté des conduites. Les municipalités et les entreprises gazières utiliseront ces données pour tâcher de remédier au problème.
Alors, de courte brève.
Oui.
Qu'ont en commun les maisons dont le code postal commence par M4? N. Elle se trouve dans le quartier le plus riche du Canada, Lawrence Park, en banlieue nord de Toronto, où la valeur nette moyenne des ménages dépasse les 3,8 millions de dollars. M4N.
Ah bon.
H3Y, portion de code associée à Westmount au Québec, arrive tout juste après 3,7 millions de dollars.
Oh, quand même. Hein?
C'est des gens qui sont, ouais, sont en moyen.
Eh bien.
Oui.
Alors, oui.
Une autre petite courte?
Oui.
Il pleut des sandwichs, savez-vous où? En Australie.
Ah, oui.
Les restaurants Jaffle Chute de Melbourne ne disposent pas de salle à manger, mais servent des sandwichs tout droit descendus du ciel. Du haut de leur 5e étage, les propriétaires préparent des Jaffle, un mot courant en Australie pour désigner des sandwichs au fromage grillé, des grilled cheese.
Oui.
Et les livres au moyen de petits parachutes aux clients qui patientent sur le trottoir.
Ah, c'est cute.
Ceux-ci passent préalablement leur commande en ligne et la règle grâce au système de paiement virtuel PayPal.
Ah, ben c'est bon.
Ça inclut des sandwichs en Australie.
Bon, mais une application avec ça?
Oui.
Toujours en quête d'efficacité, le monde de la restauration rapide, c'est pas juste des parachutes, se tourne désormais vers la technologie mobile. Plusieurs grandes chaînes américaines, dont Taco Bell et Starbucks, ont conçu des applications qui permettent à leurs clients de commander et de payer au moyen de leur téléphone intelligent. Et Tim Hortons offre aussi cette possibilité.
Ah oui.
Nettoyez votre écran de télé sans l'égratigner. Il va avoir le truc.
Oui.
Éteignez votre télé et attendez que l'écran refroidisse. Bon. Essuyez-le avec un linge doux et propre. Oui. Les essuie-tout sont trop rugueux. Si des saletés subsistent, humectez le linge avec de l'eau tiède, additionnée d'une goutte de savon à main doux. Badigeonnez-le de mayonnaise Kraft. Non, ça, c'était l'ancienne. Ça n'a pas rapport. Évitez le nettoyant pour vitres et les produits contenant de l'ammoniac ou de l'alcool qui pourraient endommager l'écran. Frottez délicatement et laissez sécher.
Oui. Là, je vais faire un petit tour dans le monde des arts. Maison éducative nouveau genre au Metropolitan Museum of Art à New York, le cours Art de la perception, une formation destinée aux policiers, militaires, membres de la CIA et autres qui y appartiennent. Alors, ces gens-là, on leur apprend à reconnaître les détails, à bien voir sur les toiles. Alors, ça les forme pour leur métier. Alors, c'était le Kiosque Magazine que nous avions vous proposer aujourd'hui, en ce 1er décembre. Ici Serge Hamelin et Roger Roy, nous vous disons...
Au revoir!
À la prochaine!